Après les attentats du 13 novembre, vous avez entendu et vu de partout cette petite phrase « Je suis Paris ». Et moi, ce matin, je suis sous pression. Ce qui était le plus marquant pour moi, c'était de voir que même les supporters de l'OM ont déployé une banderole « Je suis Paris ». Et on peut imaginer ce que ça leur a coûté en termes d'amour propre pour déployer cette banderole. Mais les circonstances tragiques, bien évidemment, nécessitaient de faire un effort et de montrer de la solidarité, même avec leurs pires ennemis sportifs. Alors dans l'évangile de Jean, il y a sept « Je suis » où Jésus exprime différentes caractéristiques de sa personne. Alors à l'automne, nous avons suivi une série sur l'épître aux Colossiens qui a été l'occasion de découvrir cette épître de Paul de manière approfondie. Et nous vous proposons à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 avril une série de 6 messages sur les « Je suis » que Jésus emploie dans l'évangile de Jean. C'est donc l'occasion de survoler cet évangile et de bien comprendre ces 7 déclarations qui prouvent que Jésus est le Fils de Dieu. Jean emploie et met ces paroles dans la bouche de Jésus parce que dans l'Ancien Testament, c'était ce terme « je suis » a une signification très particulière. En fait, on trouve cette expression dans la bouche de Dieu lui-même lorsqu'il se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Moïse est un berger, il est dans la montagne, un buisson se consume devant lui et voilà qu'une voix sort du buisson et Dieu parle depuis ce buisson en feu et se révèle à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Et lorsque Jésus utilise cette expression « je suis », il fait bien sûr référence et il s'identifie à ce Dieu de l'Ancien Testament qui est son Père. Autrement dit, Jésus, par ses paroles, cherche à confirmer qu'il est le Messie. Tout au long de l'évangile de Jean, Jésus accomplit des miracles extraordinaires. Mais si ces miracles sont bel et bien extraordinaires, aucun d'eux ne suffit pour convaincre ses contemporains qu'il est vraiment le Fils de Dieu. C'est bel et bien les paroles de Jésus qui vont permettre à ses contemporains de comprendre qu'il est le Fils de Dieu. Alors, quelles sont ces sept images dans l'évangile de Jean? La première, je suis le pain de vie. La deuxième, je suis la lumière du monde. Je suis la porte et je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et enfin, dans Jean 15, je suis le cep. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aborder la première de cette image. Notre verset de référence, ça va être Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et je vous propose, dans un premier temps, de relire le passage dans lequel on trouve ce verset. Donc je suis dans Jean chapitre 6, et on va lire les versets 25 à 58. Jean 6, à partir du verset 25. Les gens trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Et Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et qui s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Et je vais m'arrêter là. Alors, je propose de voir quatre choses ensemble. La première, c'est que tout simplement, ce pain de vie existe. La deuxième, c'est que ce pain de vie est nécessaire pour notre vie. La troisième, c'est que ce pain de vie est malheureusement inaccessible. Et enfin, qu'il y a un moyen pour accéder à ce pain de vie qui est Jésus-Christ. Alors tout d'abord, le pain de vie existe. Cette métaphore employée par Jésus ne nous invite pas à nous pencher sur toutes les variétés de pain qu'il existe et sur toutes les caractéristiques du pain. Mais par contre, on peut s'intéresser à cette caractéristique que Jésus précise, il s'agit d'un pain de vie. Un pain qui n'est pas un objet, mais un pain qui est une personne, puisque Jésus affirme « Je suis le pain de vie ». Il le dit à deux reprises. Il dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Cette métaphore est donc là pour bien nous faire comprendre qui est Jésus et pour faire comprendre à ses compatriotes juifs qu'il est le Fils de Dieu. Si Jésus était arrivé face à son auditoire en disant « Je suis le Fils de Dieu, croyez en moi. » Ils auraient immédiatement tourné les talons et seraient allés voir ailleurs, entendre un autre orateur. Et donc Jésus-Christ prend soin d'attiser la curiosité de son auditoire et de trouver une manière de se présenter comme le Fils de Dieu qui parle à ces gens. Alors tout de suite, une question importante. Pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas dans Jean 6 à ces Juifs « Je suis la lumière du monde ». Pourquoi il ne dit pas ici « Je suis le bon berger » Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas « Je suis le cèpe » Eh bien, si on revient au début du chapitre 6, on voit que Jésus vient d'accueillir une foule de 5000 personnes et il leur a donné à manger en multipliant 5 pains et 2 poissons. Maintenant qu'il a satisfait leur appétit, mais en même temps aiguisé leur curiosité, eh bien, Jésus veut proposer à cette foule d'aller un peu plus loin sur ce que peut signifier recevoir du pain. Alors, cette métaphore de Jésus, elle doit être, comme toute métaphore, circonscrite. Le but de cette métaphore, ce n'est pas de nous pousser à réfléchir sur l'idée que Dieu serait un boulanger et sur les ingrédients qu'il met pour faire un pain de vie qui soit Christ lui-même. Cependant, elle fait référence au contexte historique qui est celui de l'Antiquité. Il y a un historien célèbre qui s'appelle Paul Venn, qui a écrit un livre, Le pain et le cirque. Paul Venn est un historien qui est spécialiste de la Rome antique. Et il a notamment mis en évidence qu'une des pratiques courantes pour les princes dans l'Antiquité, c'était de distribuer du pain auprès de leurs concitoyens. C'était une manière, en fait, de montrer leur richesse, leur prodigalité, et donc leur légitimité en tant que roi. Jésus vient de distribuer du pain à une foule de 5000 personnes. Il vient donc de montrer qu'il est légitime comme prince, qu'il est légitime comme roi. Cette action de nourrir la foule a donc une signification toute particulière pour les contemporains de Jésus. Et cependant, Jésus veut être sûr que la foule ne se méprise pas sur ce qu'il est venu faire. Jésus-Christ n'est pas venu pour se présenter à la foule comme le nouveau roi des Juifs, mais il veut aller plus loin que cela. Il est venu pour se présenter à ses contemporains comme celui qui est plus que le nouveau roi des Juifs, celui qui est carrément une nourriture pour son peuple et qui va pouvoir lui donner l'énergie de vivre, une raison de vivre et la sécurité pour vivre. Et c'est pour cela que, et c'est mon deuxième point, ce pain de la vie est nécessaire. Quand est-ce qu'il est nécessaire de manger du pain? J'ai rencontré dernièrement un marin de la marine française. Et il m'a raconté notamment avoir servi dans les sous-marins. La particularité de ce service, qui est assez prestigieux dans la marine, tient au fait que ce sont des soldats qui partent sous l'eau pendant plusieurs semaines. Et ils ne voient plus la surface, ils n'ont plus aucun repère, si ce n'est les quelques mètres carrés dans lesquels ils sont entassés sous l'eau. Et en fait, le seul moyen pour eux de garder un lien avec un rythme de vie sain et une hygiène de vie, c'est d'avoir des repas à des moments réguliers. Et dans les sous-marins, en fait, le cuistot est une personne extrêmement respectée, car très qualifiée, et qui est capable de faire des repas extraordinaires avec dans une cuisine minuscule. Ce repas dans un sous-marin, eh bien, c'est ce que le pain est en Palestine. C'est le cœur de la vie quotidienne. C'est le cœur de l'alimentation. C'est le plat de résistance, la nourriture principale. Lorsque les personnes sont autour de la table et qu'on souhaite bon appétit, qu'y a-t-il à manger aujourd'hui? La réponse est du pain. Matin, midi et soir. Autrement dit, lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie », ses contemporains comprennent tout de suite qu'il fait référence à cette idée qu'il est quelque chose d'essentiel pour la vie. D'ailleurs, dans Notre Père, Jésus ne dit-il pas « Donne-nous notre pain quotidien », c'est-à-dire le pain nécessaire pour aujourd'hui, mais aussi le pain nécessaire pour toute la vie. Autrement dit, Jésus part de quelque chose de très banal, cette image du pain dont tout homme a besoin, qui fait partie de l'alimentation quotidienne, pour montrer qu'il existe cependant une alimentation non pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Et d'ailleurs, il le souligne bien lorsqu'il dit à ces Juifs qui viennent vers lui, « Eh bien, vous venez vers moi parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés, mais travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. » Il le dit aussi dans Matthieu 4, lorsque Jésus est tenté par le diable, et que celui-ci lui dit « Ah, tu as faim, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Regarde, il y a des pierres là, tu es le Fils de Dieu, tu claques des doigts, et tu transformes ces pierres en pain. » Et que fait Jésus? Il répond « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme est spirituel et il a besoin d'une nourriture spirituelle complémentaire à la nourriture matérielle. Et cela est vrai que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant. Ne dit-on pas d'ailleurs que la culture est une nourriture, ou que encore la lecture est une nourriture? En effet, nous avons besoin de quelque chose qui satisfasse notre cœur au-delà de notre corps. Alors, qu'est-ce que ce pain? Dans ce passage, on voit que ce pain, c'est le vrai pain du ciel qui est donné par le Père. C'est en fait un pain de vie ou un pain de la vie, c'est-à-dire un pain qui donne la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pain est comparé à de la manne. Alors, je vous relis ce verset qui dit, les Juifs posent la question à Jésus, « Quel signe miraculeux fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné du pain du ciel à manger. » Si tu parles avec tes voisins, si tu parles avec tes camarades, si tu parles avec tes collègues, et que tu leur dises « Il faut que tu crois en Jésus parce que Jésus est le pain de vie. » Je ne suis pas sûr que ça leur parle et je ne suis pas sûr qu'ils te répondent « Ah ouais, comme la manne dans le désert qui avait nourri le peuple. » En fait, ici, ce sont les Juifs qui propose cette analogie entre le pain de vie dont parle Jésus et la manne dans le désert. De même, la référence au pain de vie leur fait penser à une référence culturelle qui est la leur, à une grille culturelle qui est la leur. En fait, Jésus se contente de surfer sur une image qui est proposée par les Juifs eux-mêmes. Et s'ils avaient fait référence à de la mécanique, s'ils avaient fait référence à une discipline théologique, s'ils avaient fait référence au dernier match de foot, on peut penser que Jésus aurait utilisé cette référence pour leur expliquer ce qu'il est et pour leur faire découvrir qu'il est le Fils de Dieu. Comment expliquer le succès fulgurant de l'armée du salut à la fin du XIXe siècle? Créée en 1878 par William Booth, en quelques années, cette organisation est devenue une multinationale présente dans le monde entier. Comment expliquer ce succès? Comment expliquer le succès du communisme, du socialisme, prôné par Karl Marx? Comment expliquer le succès de cette idéologie révolutionnaire et pour autant athée et qui nie l'existence de Dieu? Eh bien, dans les deux cas, l'idée a été de réfléchir aux besoins des gens et à la manière de subvenir à leurs besoins. Pour Karl Marx, la solution était la révolution, la rébellion. Pour William Booth, la solution était du savon, de la soupe et le salut. Sachant que pour que des gens puissent entendre l'évangile, l'idée était d'abord qu'ils aient le ventre plein pour ensuite être disponible à entendre l'évangile. Et quelque part, c'est ce que Jésus fait. Il remplit le ventre des gens en multipliant les pains et les poissons. Il attise ensuite leur curiosité et là, il les rend disponibles pour leur prouver et leur démontrer qu'il est le pain de vie et qu'il est le Fils de Dieu. Application pour nous. Nous sommes, nous sommes croyants, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Autrement dit, il est important d'être impliqué dans la vie sociale de notre quartier, de notre communauté, de notre pays, de telle sorte à avoir des passions communes avec nos contemporains. Et ce que Jésus nous demande, ce n'est pas d'inventer la poudre pour présenter l'évangile, mais c'est d'utiliser ces faits de la vie quotidienne, ces passions que l'on partage avec nos contemporains, pour leur faire découvrir l'évangile. De la même manière, les personnes qui m'ont le plus marqué et qui m'ont fait le plus réaliser que Christ était le pain de vie, ce sont des personnes que j'ai côtoyées quand j'étais enfant et qui se racontaient autour d'un repas les expériences qui leur étaient arrivées dans la semaine, la manière dont l'évangile s'était manifesté concrètement dans leur vie au cours de la semaine. Et c'est là, finalement, à partir des histoires de la vie quotidienne et du lien que l'on fait entre cette vie quotidienne et la réalité de l'Évangile, que Jésus-Christ devient un pain vivant, que Jésus-Christ prend une dimension concrète et réelle pour nous et que nous comprenons l'Évangile. Alors, qu'est-ce que la manne ? La manne, c'est une nourriture qui est accordée chaque jour, durant 40 ans, au peuple hébreu qui est en train de traverser le désert du Sinaï en fuite de l'Égypte vers Canaan. Et pourquoi est-ce que Jésus reprend cette image ? Eh bien parce qu'elle a un grand bénéfice. La manne permet de montrer à Jésus le bénéfice du pain de la vie. Cette manne, en effet, elle a été quotidienne et elle a été durable pendant 40 ans. Et cette manne a été nécessaire et suffisante pour faire vivre un peuple dans le désert. Et ce que Jésus nous dit, c'est que de la même manière, il est une nourriture quotidienne et durable. Il est une nourriture nécessaire et suffisante pour vivre tout au long de notre existence. Il est, autrement dit, bien supérieur à la manne. Et d'ailleurs, ce qui est énorme, c'est que cette image qui est de la manne, qui est simple à comprendre pour les Juifs qui l'écoutent, eh bien, leur permet de réaliser que Jésus propose une manne qui apporte tout simplement la vie éternelle. Manger le pain de vie, c'est avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle. Et il y a au moins 7 versets qui font référence à ça, et vous pourrez les lire par vous-même. Alors, ce pain de vie est nécessaire pour avoir la vie éternelle, mais il est inaccessible. Il y a une affirmation assez étonnante de Jésus au verset 44. « Personne ne peut venir à moi. » Et en fait, à 4 reprises, les Juifs posent une question à Jésus qui révèle qu'il y a 4 obstacles pour accepter le pain de vie. Ces quatre obstacles sont l'obstacle de la prétention, de l'incompréhension, de la contradiction et de l'acceptation. L'obstacle de la prétention, tout d'abord, les Juifs demandent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répond « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et vous voyez le décalage. « Que pouvons-nous faire ?» Et Jésus leur répond « Vous pouvez croire. » Et bien souvent, c'est plus facile de faire que de croire. Les gens attendent une réponse concrète, une action précise à faire de la part de Jésus, mais Jésus leur propose simplement de croire. Et il leur rappelle que Dieu ne compte pas les points au mérite. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous observe et qui regarde combien de tours peut faire la roue ou le hamster est en train de courir jusqu'à ce qu'il y ait un nombre de tours suffisant. Et parfois, on se comporte un peu comme des hamsters en disant tout ce qu'on peut faire pour l'Église, tout ce qu'on peut faire pour nos contemporains vont nous permettre de gagner des points et d'être appréciés de la part de Dieu. Alors Jésus leur dit là, non mais vous n'avez rien à faire pour accomplir les œuvres de Dieu, vous devez croire que je suis le pain de vie. Deuxième obstacle, celui de l'incompréhension. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Et Jésus leur répond, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu ? Eh bien, ils ont vu le pain, mais ils n'ont pas vu ce que signifiait le pain. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu un homme revêtu d'un pouvoir surnaturel. Ils ont vu un roi capable de nourrir une foule, mais ils n'ont pas vu le Fils de Dieu qui accomplit parfaitement les œuvres de son Père. Vous voyez, ces personnes ont vu Jésus à l'œuvre, mais seul leur appétit de découvrir un leader politique a été éveillé. Ils ont vu un homme politique, mais ils n'ont pas vu le Messie, ils n'ont pas vu le Fils de Dieu. Et c'est étonnant parce qu'en fait, ces Juifs sont les membres de la synagogue de Capernaum. Il est possible que parmi eux, il y ait même les chefs de cette synagogue. Ce sont donc des gens logiques. ce sont des lettrés. Ce sont des personnes qui ont un haut niveau d'études dans leur contexte et dans leur ville. Et ils voient Jésus, ils l'entendent, ils voient les signes miraculeux qu'il a fait, sans pour autant venir à la foi. Le message de Jésus s'adresse à des personnes qui parfois ne sont pas des assoiffés spirituels. Et c'est encourageant pour nous de se dire que c'est formidable, l'évangile est pour ceux qui n'ont rien. Le lieu, vous savez, le continent où l'évangile se répand le plus aujourd'hui, c'est en Afrique. Et puis aussi en Amérique du Sud. Là où les populations ne sont pas riches. Mais l'évangile est aussi pour ceux qui ne sont pas des assoiffés spirituels, pour ceux qui sont riches et pour ceux qui pensent avoir tout à voir. Et ça, ça nous fait du bien aussi pour nous ici en France et en Europe. Deuxième remarque, c'est que ces lettrés intellectuels, eh bien, s'ils n'ont pas compris le message de Jésus, qui peut le comprendre? Et là, ça nous renvoie un message, c'est que par notre propre logique, par notre seule logique, je ne peux pas comprendre que Christ est le pain de vie. Et puis pour autant, eh bien, Jésus prend le temps d'essayer de convaincre et d'expliquer des personnes lettrées, des personnes érudites. Il leur donne un os à ronger, il leur donne matière à réflexion, parce que Jésus-Christ veut que toute personne se tourne vers lui, y compris ceux qui ont besoin de réflexion pour le rencontrer. Le message de Christ est donc bon pour tout le monde. Malgré la contradiction qu'il peut rencontrer, eh bien, le principal obstacle reste celui de l'acceptation. Lorsque Jésus dit, au verset 52, comment peut-il nous donner son corps à manger? C'est les Juifs qui posent cette question. Comment peut-il nous donner son corps à manger? Eh bien, certes, tous comprennent que Jésus fait référence au fait de refuser ou d'accepter le message qu'il propose d'être le pain de la vie. Et pourtant, c'est bien une parole dure à écouter, dure à accepter. Jésus prend un exemple très, très simple, celui du pain de vie. Il prend un exemple qui est universel, que l'on peut comprendre d'ailleurs encore aujourd'hui, pour leur montrer, en fait, que la compréhension de ce qu'il est ne peut se faire que par la simple logique, ne peut se faire par le débat, mais qu'il y a besoin d'une révélation particulière. Ce que Christ souhaite, en fait, ce n'est pas simplement que nous acceptions intellectuellement qu'il est le pain de vie, qu'il est nécessaire de manger une nourriture spirituelle, mais que nous avons besoin d'une transformation intérieure, que notre corps est fait de telle sorte que nous ne pouvons pas digérer ce pain de vie. Nous avons besoin d'un nouveau métabolisme, d'un nouveau système digestif. Et comment cela est possible? Eh bien, par Christ uniquement. Comment manger le pain de vie? Eh bien, grâce au rôle souverain du Père, mais aussi grâce au rôle de Christ. Christ est le pain de la vie et Christ est le moyen d'obtenir la vie. En fait, dans ce passage, il y a une double métaphore. Jésus dit qu'il est à la fois le pain de vie, mais il dit aussi que son corps est le pain qu'il donnera pour la vie du monde. Autrement dit, Jésus est à la fois celui qui se donne, mais il est aussi celui qui donne son corps pour la vie humaine. Et cette distinction est importante. À quoi sert le pain? Le pain, c'est ce qui représente l'alimentation et c'est ce qui donne donc l'énergie et la sécurité. Et qu'est-ce que Christ a accepté de faire à la croix? Eh bien, il a accepté de perdre toute énergie pour nous donner l'énergie que peut donner le pain de la vie. Il a accepté de perdre toute sécurité de vie pour que nous puissions obtenir la sécurité éternelle que procure le pain de la vie. Alors comment manger ce pain de la vie? Je termine par une application pratique. Jésus dit qu'il faut voir le Fils, il faut croire en lui, il faut venir à Christ, il faut entendre le Père, se laisser instruire par lui. Concrètement, ça veut dire quoi? Je pense que Pierre nous l'a partagé il y a 3 semaines. Là, c'est notamment mémoriser la parole par cœur, c'est lire la parole, participer à des groupes de croissance, être là ce matin et apprendre à connaître Christ. Et puis, c'est aussi comprendre comment le pain de vie n'est pas seulement une acceptation à un moment donné dans notre vie, mais quelque chose dont nous avons besoin pour chaque jour. Il m'arrive parfois, je m'embête de dire ça maintenant que les 15 jours pour ma nomination d'ancien sont écoulés, il arrive parfois que je ne dise pas la vérité pour me sortir de certaines situations. Parce que j'ai peur des conséquences, j'ai peur de ce que vont penser les autres, j'ai peur pour ma réputation, j'ai peur du conflit. Et donc, en fait, par mon mensonge ou mon évitement de la situation, j'exprime le fait que l'opinion des autres est ce qui compte le plus pour moi. Et que c'est cela, en fait, qui m'apporte une certaine confiance pour ma vie. J'exprime que ce qui est la source de la sécurité pour ma vie, c'est ma réputation. Or, qu'est-ce que Jésus-Christ me promet en disant qu'il est le pain de la vie ? Eh bien que la sécurité pour ma vie, eh bien c'est ce que lui-même est. Autrement dit, qu'il est tout suffisant pour ma sécurité. Et que si je réalise cela, je n'ai pas besoin donc de mentir pour préserver ma réputation, mais je peux tout simplement lui faire confiance que si je dis la vérité, lui va être le garant de ma réputation. Et ainsi, dans mon travail, tous les efforts que je peux faire pour faire mon travail du mieux possible, mais aussi tout simplement pour gagner plus d'argent, pour garder mon emploi, pour m'entendre bien avec mes collègues, eh bien, peut se faire dans une toute autre atmosphère, dans un tout autre état d'esprit. Puisque la réalité, c'est que le pain de vie est ma sécurité. Et non pas ce que pensent mes collègues, non pas ce que pensent mes élèves, non pas ce que pense ma hiérarchie. Vous savez quelle est la première mention du pain dans la Bible ? Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Et qu'est-ce que Jésus nous dit dans ce passage ? C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et donc, venez et achetez du pain gratuitement. Et ça, c'est bon.
Merci, Colin. On va prier pour que Dieu puisse nous aider aussi à ingérer, parce que le pain, quand on l'a mangé, s'il reste comme ça, il ne produit rien. Il faut qu'il soit digéré, absorbé, qu'il passe dans le sang, qu'il nous nourrisse. Voilà, donc on va prier pour que cette parole puisse rentrer en nous, qu'elle puisse nous nourrir. Seigneur notre Dieu, merci de t'être révélé à nous encore. Merci pour notre frère qui nous a enseigné sur qui tu es sous la forme de ce pain de vie. Seigneur, aide-nous à apprécier ce pain à sa juste valeur, à pouvoir le méditer, pouvoir l'absorber, le digérer, à le laisser pénétrer jusqu'aux profondeurs de notre être, qu'il puisse nous instruire et nous enseigner. Merci encore pour ta parole. Amen.